BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, deuxième partie de cette émission, notre débrief de l'actu cyber avec nos spécialistes Michel Juvin, Ecosystem Advisor chez Allianci. Bonjour Michel.
Bonjour.
À tes côtés, Jérôme Bilois, associé cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone.
Bonjour.
Et Wavestone que l'on retrouvera d'ailleurs à Vivatech avec BFM Business. Là, on se retrouvera sur un plateau pour parler de cyber, enfin pour parler de beaucoup de choses. Benoît Grenemval, expert en cybersécurité chez IZ France. Bonjour Benoît. Et Pascal, le Dijol.
Le
Digol, voilà. À chaque fois, je me dis, il faut que je lui demande. Directeur France WatchGuard Technologies, merci Pascal d'être avec nous. Juste un petit mot. Tiens, on parlait il y a quelques semaines de la NTS. Hein. Alors c'était des titres sécurisés. On en parlait d'ailleurs au début de cette émission avec Philippe Devost. C'est France Titres aujourd'hui, donc ils ont été piratés. Ça concerne nos données de permis de conduire, de carte d'identité, de passeport. Donc c'est quand même plutôt sérieux. Et puis on a arrêté un jeune hacker, Bridge 3D, qui a piraté. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette arrestation?
Alors c'est un jeune Bastiais qui a réussi en fait à trouver les moyens en utilisant en fait.
C'est pas forcément un petit génie, c'est un curieux, un peu geek quoi.
Voilà, c'est ça. En fait, la méthode qu'il a utilisée, on pourrait croire que ça l'a porté tout le monde. Mmh. Ça nécessite quand même un peu de réflexion et puis avoir un objectif dans la tête. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que c'est possible, c'est accessible. Et un peu à tout le monde, et c'est ça qui fait peur. D'autant plus que cette faille, elle était visiblement connue depuis quelques années, ce qui met en cause effectivement la protection de nos sites. Et la réponse du Premier ministre a été forte, hein, puisque un budget de 200 millions d'euros, du bug bounty. Alors ça tombe très bien parce qu'on a justement une très belle société bug bounty en France qui va certainement bien opérer. Et puis 5% de budget de l'ensemble des ministères pour la cybersécurité. Et ça, c'est une bonne chose. Mais en fait, on peut se poser la question, quelle punition apporter à ce jeune hacker, sachant que c'est une vraie problématique, qui a d'ailleurs été documentée par l'un des mémoires de l'école.
Parce qu'il a 15 ans, on ne va pas lui mettre 30 ans de prison.
Oui, non plus, et
en même temps,
faut se poser la question, est-ce qu'on va le faire baigner dans un milieu de criminels pour qu'il apprenne un peu plus ou un peu mieux ce métier qu'il a goûté, ou au contraire, est-ce qu'on va réussir à le recadrer et à le renvoyer dans des environnements éthiques? Et
puis ses motifs étaient quoi? Ses motifs étaient pécuniers? C'est parce que il a volé ses données, il les a mis sur le dark web, il a gagné de l'argent avec ça, ou alors c'était juste c'était pas que la performance technique?
Je pense pas qu'il ait gagné d'argent. Pour autant, il avait un précédent dans lequel il avait déjà essayé de gagner de l'argent. Mm-hmm. Donc, on peut dire qu'il y avait un hack for de monnaie au début, et puis ça s'est transformé en hack for fun, dans la mesure où il est allé lui-même à la gendarmerie de Bastia pour préciser que c'était lui qui l'avait fait. Mais quand on revient sur le budget de 200 millions d'euros, on se dit... C'est 200 millions, pardon.
Oui, en prix sur le budget France 2030, hein, c'est pas une nouvelle enveloppe.
Quand on y réfléchit bien, on se dit, mais un expert cybersécurité, c'est environ 1500 euros par jour. Il travaille 220 jours dans l'année. Donc on divise 200 millions par 1500 et par 220 et on trouve environ 600 personnes. Oh! Et là, on se dit tout de suite, ça va pas être simple de trouver 600 experts. Et c'est des experts cyber qui vont pas faire simplement qu'appliquer la réglementation. Il faut qu'ils soient un niveau au-dessus. Mm-hmm. Parce qu'il y a des tas d'entreprises qui étaient conformes réglementairement et qui se sont fait hacker. Donc là, il faut réfléchir un petit peu plus. Et on est confronté là quand même à un vrai problème de fond.
Pascal, un petit curieux.
Un petit curieux, oui.
Mais un peu habile, un peu agile.
Habile, oui, ça ressemble.
Un peu malin.
Ça ressemble aux techniques de piratage. Vous savez, quand vous apprenez le piratage, tu as déjà suivi les cursus initiaux. Mm-hmm. Ça ressemble aux premières questions. C'est-à-dire, on voit les exercices et la manière dont il est piraté, c'est un de ses premiers exercices. Donc, effectivement, ça n'allait pas forcément très loin. Il faut tomber dessus. Mm-hmm. Donc, d'où la curiosité. Après, ce qui va lui tomber dessus, il y a une loi. Hein. De toute manière, il tombe sous le coup de la loi. Alors, il est mineur, donc ça sera quand même atténué par rapport à ça. Puis après, il faut essayer de, comme tu disais, recadrer.
Utiliser ses compétences, Benoît, ce serait ça.
Après,
pardon,
juste,
vas-y, Pascal.
Juste un dernier point. On parle de budget, beaucoup de budget. Moi, j'y vois surtout un problème de responsabilité dans cette histoire-là, parce que le budget, la NTS, ils en avaient. C'est pas ça qui leur a fait, qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas la faille. Donc, il y a des responsabilités un peu trop
diluées. Oui, même si c'est ce sujet-là. Parce que moi, j'ai entendu aussi certains qui disent oui, mais on a un gros legacy qui est compliqué à bouger et tout ça. Mais toutes les entreprises ont des gros legacy. Alors,
c'est ça. Voilà. Là, il y a surtout des couches aussi de sous-traitance, de qui est permanent, pas permanent. Enfin, je pense que si on s'y penche,
il y a un peu de process.
C'est trop dilué, un peu tout ça.
Ça, on va voir, Benoît. Ouais.
Oui, donc il risque soit 7 ans de prison, soit 300 000 euros d'amende. Donc, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui ne l'a pas dissuadé de le faire. Et moi, ça me rappelle une opération qui s'appelle Cactus, qui a été menée il n'y a pas longtemps conjointement avec Cybermalveillance et qui a envoyé sur les ENT un hameçonnage pour sensibiliser les différents élèves au bon réflexe. Oui. Peut-être qu'il faudrait l'accompagner aussi d'éléments qui leur permettraient de se manifester, si jamais, au-delà de l'hameçonnage qu'ils arrivent à déjouer, s'ils ont des compétences et qu'ils veulent pouvoir les mettre au service des autorités, par exemple, ou des boîtes privées, parce qu'à 14-15 ans, on est encore sur l'ENT et on peut tout à fait lever la main.
Moi, je me souviens, il y a quelques années, le ministère de la Défense qui est à côté de chez nous, c'était avant le Covid, ça date un peu, ils avaient mis à jour, alors rendu public des informations sur la machine Enigma. Donc, on était allé voir la conférence de presse. Et puis, en parallèle, ils avaient gardé un dernier petit quart d'heure en disant, tiens, on va organiser un grand concours pour les lycéens, justement, pour repérer un peu pour nos services de renseignement. Tiens, ce serait bien, je vais les recontacter, savoir où ils en sont quelques années plus tard. Voilà pour ce jeune hacker. On verra, on suivra bien entendu ça. Et alors, des jeunes hackers, il y en a pas mal qui sont formés en Russie. C'est Jérôme qui a repéré. C'est un article du Monde sur des docs qui ont fuité de l'école de GRU pour entraîner au piratage des informations. Là, on part en Russie, hein, Jérôme.
Voilà, là, on part en Russie. On est à l'université Bauman de Moscou.
Qui est une école assez prestigieuse.
Voilà, qui est une université d'État reconnue, etc. Et qui a une section, section numéro 4, qui effectivement est assez discrète, mais elle a eu une grosse fuite de données qui, cette fois-ci, nous intéresse parce qu'on y apprend plein de choses et Le Monde ainsi qu'un consortium de journaux internationaux ont pu décortiquer tous les documents qui montrent clairement qu'il y a des cursus pour devenir pirate au sein de l'État russe avec une approche qui est vraiment une couverture à 360 degrés des compétences requises parce que ça va du classique sur comment marchent les ordinateurs, les serveurs, l'infrastructure, etc. et sur du beaucoup moins classique, par exemple comment on positionne des micros, des caméras dans des domiciles.
La palette complète.
Oui. Voilà. Et il y a aussi une grande catégorie que souvent on ne retrouve pas justement dans l'approche plutôt française européenne de la cybersécurité, c'est toute la lutte informationnelle. Et finalement, ils ont des cours sur comment on décrédibilise quelqu'un, sur comment on fait
d'ailleurs,
passer un rationnel.
On soupçonne que ce soit eux qui attaquaient. Donc, on parle de Fansibir, d'APT28. On soupçonne que ce soit eux qui attaquaient TV5 Monde. Hein. Je crois que dans le Monde, c'est ce qu'ils disent il y a quelques années pour.
Oui, alors c'est pas directement l'université, mais effectivement, cette université nourrit
des gens formés dans cette.
Voilà, cette université nourrit les services de renseignement russes, en particulier le GRU, mais il y en a d'autres aussi, qui ont été associés à beaucoup de cyberattaques d'ampleur, TV5 Monde. On les a aussi reliés aux tentatives sur les Jeux Olympiques, aux tentatives sur la campagne...
Et qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de ça, Jérôme ?
Alors, moi, je pense que ça ouvre le couvercle sur quelque chose qu'on sait tous, tous les services de renseignement, de toute façon, cherchent à avoir des forces vives nouvelles. Mm-hmm. Là, c'est vraiment, je pense, l'industrialisation. Déjà, il y a une vraie filière. Chez nous, c'est, tu l'évoquais à l'instant avec les militaires, qui disaient, tiens, on peut essayer d'intéresser les profils. Et après, ils les forment en interne. Là, il y a une vraie filière externe de formation.
Ouais, de pirates.
Voilà. Et surtout, une filière qui mixe toutes ces dimensions simultanément, et en particulier la dimension informationnelle, qui est quelque chose qu'aujourd'hui, à ma connaissance, dans tous les cursus cybersécurité en France, on ne traite pas. Même dans une logique défensive. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va être dans des choses très techniques dans la défense, mais moins dans la défense informationnelle, alors que c'est quand même un des enjeux majeurs de ce
Nous, on est vraiment, dans cette partie technique.
On sépare la cybersécurité au sens « je protège mes données, mes serveurs, mes infrastructures » de la défense face à des fausses informations, des deepfakes, des fake news, qui sont, dans les grandes entreprises, plutôt rattachées à la communication.
Ouais.
Mais de plus en plus, il y a des liens avec les équipes cyber quand même. Ça commence, c'est naissant dans quelques structures où les équipes de réponse à incidents dans ces grands groupes du CAC 40, commencent à être sollicités par la com pour justement déjà bien analyser quand ils sont victimes de campagnes d'attaque, et puis voir comment répondre, en restant là évidemment dans un cadre légal, mais répondre de manière intelligente face à ces attaques. Et là, c'est sûr qu'en termes de formation, on n'a pas grand-chose en France aujourd'hui.
Ah, c'est intéressant ça, de voir, Pascal, d'avoir ces formations plus globales, alors à la fois technologiques et puis de la géopolitique, former un peu ces gens-là.
Faut rappeler que là, on parle souvent de cybercriminalité, mais la cybercriminalité, c'est aussi un pan du militaire. Mmh. Et qu'ils aient des cursus pour nourrir le militaire, j'espère
qu'on l'a même. Oui, la même formée qu'ils formaient des espions, voilà, et des espions au sens...
En fait, si on fait un pas de recul, ouais. c'est logique et sain de leur point de vue que les formations soient
cadrées. Peut-être moins dans le côté offensif de désinformation.
Pourquoi pas? Je pense que quelqu'un qui est formé pilote dans l'aviation apprend aussi à larguer une bombe. Aujourd'hui, en fait, on parle d'un outil qui est un outil militaire. Donc, il sert aussi bien à la défense qu'à l'attaque. Et je pense qu'on a, c'est vrai qu'on parle souvent des Russes, des Nord-Coréens qui attaquent, etc. Mais le jour où il y a une guerre et qu'il faut faire la guerre numérique, il va falloir qu'on attaque aussi. Donc, j'espère qu'on est formé comme cela.
En tout cas, dans la doctrine du ministère des Armées, dans la doctrine cyber, il y a déjà un grand plan sur la lutte informationnelle. Donc, voilà, on a déjà les experts et on sait déjà faire. Après, c'est qu'on a moins de formation labellisée comme ça, en tout cas, visible.
Là, elle était cachée. Donc, rien ne dit que...
Nous, on l'est. Benoît.
Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fameux compte X, ex-Twitter de la France, qui permet, le nom m'échappe, mais qui permet aussi de débunker ces fausses informations. Donc, c'est aussi un début. Il y a peut-être pas je ne sais pas si le community manager a été formé particulièrement pour ce compte-là, mais il tourne en parodie un certain nombre de fausses informations, ce qui permet de répondre, on va dire, à la française. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces documents, un peu comme iSoon, c'est un leak qui est arrivé en Chine et qui nous montrait comment un sous-traitant pouvait travailler pour l'État et mener des opérations un peu similaires à APT28, nous révèle comment ça fonctionne. Une fois que les documents sont authentifiés, on a vraiment des mines d'informations qui sont énormes, véridiques, et qui nous permettent de mieux comprendre effectivement comment se préparent ceux qui cherchent parfois à nous déstabiliser. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fortement intéressant, à mon avis, qui va mériter d'être étudié.
Mais c'est ce qu'on disait depuis pas mal d'années, parce que souvent on disait attention, oui moi je suis pas une entreprise menacée, je parle de ça il y a encore 3-4 ans, parce que je suis pas une banque, je suis pas un acteur, et puis on dit oui mais votre patron il est exposé, enfin il y avait tout ça, on en parlait à l'époque, Jérôme.
Oui tout à fait, de toute façon la menace est vraiment protéiforme, et c'est vrai qu'on voit la menace classique du ransomware, mais si on observe ce qui se passe aujourd'hui, cette menace elle évolue énormément. On n'est plus juste sur j'envoie un phishing, je pirate un ordinateur et j'accède au serveur pour tout couper. On est vraiment sur plusieurs axes. On va attaquer les systèmes cloud pour extraire des données discrètement. Mm-hmm. On a des attaques sur les RH, sur le recrutement. On en a déjà parlé ici avec la Corée du Nord, mais il y a d'autres actions sur ce volet-là. Et on a les attaques sur l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est face à une menace qui vraiment s'élargit dans les canaux par lesquels elle peut être activée et s'élargit aussi sur les acteurs qui le font.
Oui, moi ça m'amène à une prise de conscience qu'on tarde un petit peu à venir. C'est cette stratégie plutôt offensive. On a toujours été depuis très longtemps sur la défense.
Ou alors, comme le dit Pascal, on ne le sait pas, mais ce serait bien de le faire savoir, peut-être un petit peu pour montrer que nous aussi on sait se défendre.
Au-delà simplement de le faire savoir, c'est se dire aussi que peut-être dans les entreprises, il faut réfléchir à une stratégie offensive. C'est-à-dire se mettre encore plus à la place du hacker pour se dire, si on m'attaque, comment est-ce qu'on va faire? Cette stratégie offensive, je trouve qu'elle tarde peut-être un peu à rentrer dans le... On est en cyberguerre. On est passé de la cyberguerre froide à la cyberguerre chaude. Et c'est pas une blague. Et maintenant, il faut réfléchir d'une manière un peu plus offensive que ce qu'on a
été. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ce que j'ai à l'instant. C'est quand un patron s'expose ou quand une entreprise s'expose, qu'elle se dise, tiens, le fait que je prenne position, je m'appelle, mettons, Patrick Pouyanné en ce moment, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, le fait que je m'expose, quels sont les risques pour moi d'être exposé justement à des cyberattaques, des informations
Ah oui, c'est sûr. De toute façon, du moment où il y a de l'exposition médiatique liée à une actualité...
Là, je pense que Total doit prendre ce
tous les activistes du monde sont certainement sur le dossier.
Oui, et lui, je pense qu'il a bien aussi cerné tout ça avec ses...
Mais sur le côté offensif, On a bien vu là en début d'année la communication de la Maison Blanche sur la nouvelle stratégie cyber. Mm-hmm. Et eux, ils mettent les feux à fond sur le volet offensif, hein, mm-hmm. y compris dans un lien avec le secteur privé. Aujourd'hui, c'est une ligne rouge qu'on a en Europe de dire le hackback, la réponse aux attaques reste des prérogatives des États dans mm-hmm. le cadre de leur sûreté nationale. Là, les États-Unis ont ouvert une porte assez forte à l'interaction.
Ouais, et on parle bien encore une fois, on le dit, on parle bien de l'offensive technologique et informationnelle. Enfin voilà, tous les pans un peu de ce côté hacking qui soit à la fois technologique ou justement sur des choses plus soft dans ce domaine. Troisième sujet, c'est toi qui l'a relevé, Benoît, c'est les nouvelles formes d'hameçonnage. Alors tu dis, voilà, j'ai à partir de 4-5 infos, on dit tiens, c'est... Tout ça est en train de changer. Alors évidemment, l'IA a son rôle à jouer parce qu'elle apporte un peu plus d'aide à ceux qui veulent déjouer les portes, enfin les portails des entreprises. Alors voilà, explique-nous un petit peu ce que tu as repéré.
Oui, alors j'ai compilé en cherchant autour de l'hameçonnage ce qui pouvait évoluer ces derniers temps. Et le premier constat, c'est parti d'un rapport de Microsoft qui disait que sur le premier trimestre, il y avait plus de 8 milliards d'emails d'hameçonnage. Donc on est encore mm-hmm. dans une logique massive. Oui. Il y avait dans ce rapport aussi 143% de ces emails qui en augmentation pour du QR code. Donc du QR code soit directement dans l'email, oui. soit dans des PDF attachés. Donc ça pose la question de comment est-ce que les utilisateurs vont manipuler ces QR codes, comment est-ce que ça va permettre de passer les barrières. Et puis il y a aussi l'utilisation de CAPTCHA, CAPTCHA, qui crédibilise.
Un CAPTCHA, on le rappelle, hein, c'est ces petites lettres voilà, qui vous sont écrites un peu n'importe comment. On lit des chiffres si on voit bien, ça évite. Voilà, que des robots, que d'autres.
Ne passent les fameuses barrières. Et en fait, en rajoutant ce faux CAPTCHA, eh bien, on va crédibiliser l'accès au site sur lequel on va rentrer ses logins et ses mots de passe.
Ah, et là, c'est juste dans la tête. On s'est dit, tiens, il y a ça, ça doit être sécurisé.
C'est donc que ça doit être sécurisé, c'est donc que c'est légitime. Et puis, de l'autre côté, on a les attaquants qui continuent à faire du malware as a service ou du phishing as a service. C'est un peu comme les ransomware. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui vont mettre à disposition des kits. Alors, soit des kits, entre guillemets, traditionnels qui vont usurper l'identité de grandes entités, avec l'intelligence artificielle, effectivement, pour aider les moins talentueux à rédiger les messages. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des kits qui, eux, sont plus pernicieux parce qu'en fait, ils envoient des emails qui ne contiennent rien sauf un numéro. Ce qui fait que ça va passer un certain nombre de barrières, on va appeler le numéro et là on va tomber sur un système automatisé avec l'intelligence artificielle qui va vous demander de réaliser.
Et puis là on parle des courriels, mais on a tous reçu la photo de la personne, je suis devant chez vous avec le colis, la camionnette derrière.
Ça, c'est un exemple incroyable de personnalisation des attaques qui est vraiment une tendance nouvelle, aidée justement par l'intelligence artificielle. Parce qu'avant on recevait un SMS qui disait vous avez un colis, ah ben là maintenant on reçoit un SMS avec une photo, avec la photo d'un colis, son nom, son prénom, le code de sa porte.
C'est la même photo, donc au bout de deux fois.
Au bout d'un certain soir, on voit. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à croiser les vols de bases de données qui sont très précis, avec justement même le code porte, etc. Mm-hmm. Donc ça donne une légitimité extrêmement plus forte. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'ils utilisent l'IA pour changer justement la photo des colis ou la photo du camion, ce qui est malheureusement qu'un pas de plus dans l'automatisation. Ouais. Et je pense qu'ils en ont eux-mêmes l'idée. Je leur apprends pas quelque chose aujourd'hui de révolutionnaire.
Et puis on le dit beaucoup ici, Pascal, on est dans un univers du service. Hein. Et derrière, il y a du service après-vente, il y a du. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
On est dans un univers du service, on est aussi dans un univers où on voit que l'IA commence à couper des jobs. Mmh, c'est-à-dire qu'avant, on recrutait des petits jeunes pour aller appeler, faire du phishing à partir des informations pour avoir les logins. Ben maintenant, il n'y en a plus besoin, en fait. C'est l'IA qui l'a fait. Avec la voix de l'IA scriptée, avec tout ce qui va bien. Donc c'est mon premier commentaire, c'est qu'il y a des métiers qui sont en train de disparaître parce que l'IA prend la place,
y compris dans le monde
de la cybercriminalité,
des forces obscures.
Et puis mon deuxième commentaire, c'est là on est bien assis confortablement à commenter les choses qui se font, mais prenons le pari. Aujourd'hui, on voit déjà une IA qui est capable de parler à un humain. De clairement, alors dans un contexte bien spécifique, de passer le test de Turing, c'est-à-dire que la personne en face humaine ne détecte pas que c'est de l'IA, à quand les IA qui vont dérouler, à partir de toutes les fuites de données qui ont eu lieu, une attaque complète d'ingénierie sociale, en essayant de trouver la faille la plus...
Mais surtout quand on entend qu'on a pu se faire pirater ses données par son opérateur, par un site marchand chez qui on est allé, par l'ANTS, son permis de conduire, toutes ces genres de choses.
Je pense qu'on est plus d'armer une IA pour être capable, presque de manière autonome, à faire de l'ingénierie sociale, qui est probablement le truc le plus dur à faire pour un pirate, parce que c'est manipuler l'esprit de l'humain qui est en face. Mm-hmm. Mais une IA autonome, je pense que je serais ravi de commenter si jamais tu m'invites encore.
Quand on sera là. Ouais, on sera peut-être remplacé par des IA.
Bah, peut-être, oui, justement.
Le kit, et pour terminer, le kit coûte 4 000 $, plus une partie des bénéfices. Donc on est sur un montant qui peut être conséquent, mais compte tenu des bénéfices faits par les cybercriminels, c'est accessible. Mm-hmm.
Et juste un dernier point, parce que là, on raconte ce qui se passe. Mais en fait, il faut se mettre de l'autre côté, du côté des entreprises. Comment est-ce qu'on défend par rapport à ça? Parce qu'on voit bien que l'hameçonnage, en fait, on passe au-delà de toutes les barrières de sécurité physique qu'on a mises en place, puisqu'on va directement avec un droit d'accès à l'intérieur du réseau d'entreprise. Et donc, l'idée de fond, pour défendre, c'est sensibilisation, d'abord. Il faut parler, expliquer, montrer, démontrer que ça marche très bien. Et puis en même temps, il y a quelques actions spécifiques pour bloquer certains logiciels qui sont en fait des logiciels de binaire qui s'activent au travers donc de ces outils d'hameçonnage. Donc il y a quand même quelques actions à faire pour tenter de protéger un petit peu. Faut pas les oublier, et c'est vraiment une action que l'ensemble.
Mais c'est vrai que maintenant on doute de tout. Moi j'ai reçu récemment c'était l'INSEE qui faisait une enquête sur la santé des Français. Alors les questions restent assez générales, hein, mais quand même on nous demande si on dort bien, moi j'ai eu un doute quand même. Hein. J'ai contacté le service de presse de l'INSEE en demandant il y a bien une enquête en ce moment. Et puis même faire confiance s'il y avait un numéro.
Dès qu'il y a de l'urgence, c'est ça le critère numéro un. C'est-à-dire, s'il y a de l'urgence, c'est des données personnelles ou financières, déjà, il faut que ça s'allume rouge dans la tête en disant attention, fraude potentielle. Puis toujours contacter l'organisme initial qui a lancé la demande par un autre canal. C'est les bons réflexes, mais il faut que tout le monde y pense, quoi. Et c'est pas simple.
Passer par les applications aussi. Alors, il n'y a peut-être pas d'application pour les sondages, mais si on reçoit un email d'Amélie ou si on reçoit un email de sa banque, moi, généralement, je ne les lis plus, ces emails-là, ils passent directement à la poubelle et je vais dans l'application. Et si je n'ai pas de notification dans l'application,
c'est que ça n'existe pas. La banque, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, ils ne communiquent plus par messagerie à la banque. On va à l'intérieur de l'application et c'est par là que l'on communique. C'est vrai que ça, l'INSEE me dirait, rentrez sur votre compte INSEE et allez répondre. J'y serai allé beaucoup plus rapidement. Dernier sujet. Alors, je ne sais plus qui l'avait mis sur le quantique. C'était toi, les attaquants à la pointe du chiffrement. Alors, c'est une nouvelle opération du rançongiciel Kyber et identifié avec du chiffrement post-quantique. On y arrive, ça y est, on sait que on y est.
Bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le chiffrement post-quantique et les cybercriminels l'ont bien compris. Ça va poser problème aux opérations de déchiffrement. Alors, il y a plusieurs méthodes pour arriver à déchiffrer des attaques par rançongiciel. Notamment, on peut casser le code, peut fuiter. On peut avoir des opérations de police qui vont permettre de saisir des serveurs et donc d'avoir les moyens de pouvoir faire du reverse et de revenir et de déchiffrer. Mais là, avec du chiffrement post-quantique, on passe à une étape supérieure qui va être, qui est tout à fait tendance, mais qui va être problématique pendant un certain temps.
Jérôme.
Oui, tendance, comme tu le dis, je trouve que ça démontre plusieurs choses. Sur le fond, aujourd'hui, ça sert à rien pour les cybercriminels de passer au chiffrement post-quantique. Mm-hmm. Parce que la menace que, justement, leur clé puisse être révélée grâce à l'utilisation d'un ordinateur quantique n'existe pas. Aujourd'hui, personne ne... Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'ils sont doués pour le marketing? Parce que là, ça fait un coup. En disant, regardez, notre chiffrement, il est post-quantique, complètement incassable. Donc ça, du côté de la victime, ça dit, oh là là, je ne pourrais rien faire, donc il va falloir vraiment que je paye. Et du côté du recrutement pour les cybercriminels qui cherchent toujours à recruter sur les plateformes des nouveaux cybercriminels en herbe qui vont utiliser les outils, ça fait, j'ai l'outil de dernière génération.
Dans post-quantique, donc je suis dedans.
Et ça démontre une chose, c'est que les cybercriminels sont toujours aussi forts pour leur transformation numérique.
Oui.
Ils ont réussi à faire des plateformes, ils réussissent à passer au post-quantique, ils réussissent à utiliser l'IA, souvent malheureusement bien plus vite que
les agents. On en parlait d'un agent autonome qui un jour sera capable de...
Oui, ou des modèles d'intelligence artificielle qui sont débridés et qui les aident dans leurs activités. Donc oui, ils sont très très forts là-dessus.
Michel, sur ce sujet.
C'est un peu désagréable de se dire qu'ils y arrivent assez facilement alors que beaucoup d'entreprises ont un mal fou en fait à passer au chiffrement post-quantique. Et se dire que finalement, je rejoins sur cette idée de marketing, mais Mais il faut qu'on essaye quand même aussi de rappeler que c'est un engagement fort de cette année. C'est d'ailleurs rappelé aussi dans la directive qui a été publiée par le Premier ministre il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas impossible à faire. Et en même temps, restons bien concentrés. C'est un objectif de fond et il faut le planifier.
Les pirates profitent de leur force, qui est l'agilité.
Oui. Aujourd'hui, pour parler justement tous les deux éditeurs, Isette pour Benoît et WatchGuard Technologies pour toi, Pascal. Voilà, le post-quantique, les entreprises, elles posent la question.
Alors moi, je suis sur les PME ETI. Ouais. Ouais, si donc, je parle de post-quantique, j'ai un visage en face de moi qui s'éteint.
Il change de couleur.
Donc nous, en fait, notre rôle à nous, c'est justement de d'évangéliser, de leur apporter l'information pour qu'ils se sensibilisent le plus rapidement possible. Mais c'est plus facile à faire pour un pirate d'utiliser juste un algorithme.
Ouais.
Enfin, nous, on est constructeur hardware. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des boîtiers qui sont vieux de 10 ans, qui sont encore dans les entreprises. Et ces boîtiers-là ne seront pas chiffrés du post-quantique aujourd'hui. C'est une question de puissance. Le pirate, il s'en fiche. Il a le temps de chiffrer sur sa machine. Donc, ils profitent de leur agilité là où ils sont.
Ouais.
Mais pour que tout le marché se mette en branle, il y a quand même un peu plus qui est nécessaire.
Ouais.
Mais il faut y aller. Il n'y a pas de doute.
Donc, il y a un effet communication, mais il ne faut pas quand même laisser passer ces technologies.
Non, complètement. Nous, on doit avertir nos clients, effectivement, être à la pointe, se mettre nous-mêmes à la pointe, quand c'est possible, effectivement, logiciel ou matériel. Et puis, amener aux clients les éléments qui vont faire qu'ils vont comprendre et adopter eux-mêmes le post-quantique, se poser la question.
Waystone, chaque année, fait un concours là, de start-up.
Oui.
Le prochain, c'est quand, d'ailleurs?
Ça sort pour Vivatech, justement. Ah, on publiera ça le 16 juin, oui.
Et un peu de quantique dans tout ça?
Oui, il y aura des start-up qui parlent de quantique. Aujourd'hui, le marché sur les grandes entreprises, ça y est, il démarre enfin. Mm-hmm. Aujourd'hui, on voit les premières acquisitions d'outils, on voit les premiers grands programmes qui se lancent. Avant tout, la défense a déjà sauté le pas parce qu'eux sont très exposés. La finance est dedans ces temps-ci. Et on voit l'industrie, en particulier ceux qui fabriquent des choses à longue durée de vie, comme les trains, les automobiles, etc. Mm-hmm. Il faut aujourd'hui mettre le moteur quantique pour que la plateforme qui sort dans 3-4 ans soit conforme, parce qu'on sera dans les dates. Il faut rappeler que l'Union européenne demande à ce qu'à 2030, dans les infrastructures critique, tout a été migré.
Eh bien, merci. Donc, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de Vivatech. Merci, Jérôme Bilot, associé cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone. Michel Juvin, écosystème advisor chez LNC. Pascal Lodigal, directeur France de WatchGuard Technology. Et Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez IZ France. Voilà ce qu'il fallait retenir un peu des quelques grosses news de cyber du moment. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver évidemment en replay, en podcast sur votre plateforme préférée, mais aussi sur le site bfmbusiness.com. À très bientôt pour une nouvelle émission Tech & Co Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.